entamer une partie plus scientifique, avec en particulier Pierre Nort, qui est maître d'enseignement et de recherche en astrophysique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et il va nous parler de l'avenir selon l'astrophysique et la cosmologie. Et je lui laisse maintenant la parole.
Merci. Alors, est-ce qu'on peut projeter la première image? Il y a un petit problème technique. Ah. Voilà, merci. Alors, la science a, évidemment, du fait qu'elle se base sur des théories, un certain pouvoir prédictif, entre guillemets, qu'il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre dans le cas qui nous occupe pour ce qui est de notre vie immédiate, mais néanmoins, dans ces grandes lignes, il est possible de décrire l'avenir du cosmos pris dans son ensemble et puis un peu plus localement, l'avenir de notre système solaire aussi. Alors, le plan de mon exposé est le suivant. Donc, après une courte introduction, je vais vous parler d'abord de l'univers à grande échelle, où chacune des galaxies que vous voyez sur ce cliché est considérée comme une sorte de molécule ou d'atome dans un gaz de galaxies, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça qu'on peut envisager la cosmologie. Il s'agit de l'univers dans son échelle la plus grande possible. Et pratiquement tous ces points que vous voyez là, sur ce cliché très profond, représentent une galaxie qui elle-même représente de nombreux milliards de soleils. Après avoir parlé de ces immenses échelles qui sont tellement grandes qu'elles nous concernent d'assez loin, en fait, je me rapprocherai par paliers successifs pour parler d'abord de l'avenir du Soleil, et donc aussi du système solaire et de notre Terre en particulier. Et puis, je passerai aussi quelque temps sur la question des impacts. Vous savez que la science est une, disons, inclut des notions de statistiques, hein, d'événements aléatoires. Et les impacts de météorites sur la Terre sont des choses qui se sont passées dans le passé géologique de la Terre, bien sûr, et qui sont toujours un risque pour nous, donc l'avenir doit être envisagé aussi sous cet angle-là. Et puis, je ferai une assez brève allusion aux menaces encore plus immédiates, à savoir l'épuisement des ressources. Je vous donnerai aussi un petit aperçu du point de vue de l'histoire des sciences, pour comparer un point de vue d'il y a un siècle avec un point de vue actuel. Et puis, je conclurai. En guise d'introduction, une citation extrêmement connue, celle de Paul Valéry, qui disait « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, hein, tout le monde connaît cette citation-là. » Du point de vue astrophysique, évidemment, il ne s'agit pas seulement de la civilisation, mais de l'humanité tout entière. Tout à l'heure, j'ai pensé à cette parole de Woody Allen qui disait « L'avenir m'intéresse parce que c'est là que j'ai l'intention de passer la fin de mes jours. » Alors, il y a cette préoccupation très immédiate et personnelle. Ici, vous allez voir les choses de manière beaucoup plus vaste, puisqu'il s'agit du cosmos entier et puis par voie de conséquence de l'humanité entière, bien sûr. Donc, il s'agit de rien moins que de la survie de l'humanité, ou en d'autres termes, de son immortalité, en somme. On n'a pas tendance à imaginer que même si nous-mêmes sommes mortels, peut-être via nos descendants, l'humanité pourrait-elle être immortelle. Et vous avez cette fameuse remarque de Dostoïevski qui met dans la bouche d'Ivan Karamazov cette considération. Si l'on détruit l'humanité, dans l'humanité, la foi dans son immortalité, cela fera tarir aussitôt en elle non seulement tout amour, mais encore toute force vive qui permette de continuer la vie du monde. Bien mieux, il n'y aura alors plus rien d'immoral, tout sera permis. Il s'agit d'une question qui est grave non seulement quant à la simple question de la survie, mais aussi quant à la question de notre vie actuelle et cette notion d'immortalité qui est quand même au cœur de chacun est liée aussi à cette question de la survie de l'humanité. Et cela me fait penser aussi à une citation de Jean Rostand qui disait, il y a une cinquantaine d'années, on n'a jamais autant parlé de l'avenir que depuis qu'on ne sait même plus s'il y aura un avenir. L'univers à grande échelle. Alors, l'avenir selon la cosmologie, sur des échelles de temps de l'ordre de dizaines, voire de centaines de milliards d'années. Vous savez qu'il y a plusieurs modèles possibles pour l'univers. Évidemment, les observations tâchent de contraindre la géométrie réelle de l'univers, mais en grosso modo, disons, de manière assez schématique, on peut voir, disons, trois géométries essentielles pour l'univers. Vous avez, je vais commencer par le bas ici, l'univers dit fermé. C'est un univers qui est illimité, mais fini, en quelque sorte, un peu à l'image de la Terre, où vous pouvez parcourir la Terre en marchant toujours droit devant vous, mais vous revenez à votre point de départ au bout d'un certain temps, sans avoir pour autant rencontré aucune limite. Eh bien, un univers fermé serait de ce type-là. Vous partez en fusée tout droit, et à condition de voyager pendant suffisamment de milliards d'années, vous finissez par vous retrouver au point de départ. Et alors, vous savez que l'univers est en expansion, donc toutes les galaxies que je vous ai montrées dans le premier cliché sont toutes en train de s'éloigner les unes des autres, à un taux qui obéit à ce qu'on appelle la loi de Hubble. Et si vous portez la distance typique entre deux galaxies, suffisamment lointaine pour que leur mouvement aléatoire lié à la gravitation entre les galaxies soit négligeable devant ce qu'on appelle le flux de Hubble, c'est-à-dire le mouvement général d'expansion, vous portez cette distance typique en fonction du temps cosmique, qui se mesure en milliards d'années. Alors, l'expansion, évidemment, signifie que la taille, donc cette distance augmente avec le temps. Et puis, dans cette géométrie fermée, vous aurez atteint un maximum. L'univers va s'arrêter, en quelque sorte, pour ensuite se contracter à nouveau. Et puis, au Big Bang, qui est l'événement originel, si on peut dire, devrait succéder finalement un Big Crunch, où les galaxies s'interpénétreraient, finalement se murer en un gaz, un plasma extrêmement chaud, qui serait vraiment la fin du monde absolu. Certains imaginent qu'on pourrait rebondir après pour faire un nouvel univers, mais il s'agit là de spéculations qui sont vraiment difficiles à vérifier de quelque manière. Le cas de l'univers plat, c'est un univers dont la géométrie serait euclidienne et qui, alors, continuerait son expansion jusqu'à l'éternité, tout en ralentissant son expansion de manière asymptotique, jusqu'à une vitesse nulle, mais reléguée à l'infini. Et puis, vous avez l'univers ouvert, où là, si vous partez tout droit dans l'univers, vous ne revenez jamais à votre point de départ, non plus que dans l'univers plat d'ailleurs. Et là, l'expansion est éternelle et infinie. Voilà, donc dans le cas de l'univers fermé, une durée de vie universelle en quelque sorte, qui se chiffrerait peut-être en 100 milliards d'années, enfin c'est quelque chose qui est très spéculatif, mais qui, de toute manière, ne colle pas très bien avec les observations actuelles, en fait. Les observations actuelles privilégient plutôt un univers qui serait ouvert, ou juste à la limite entre ouvert et fermé, mais surtout qui contiendrait ce qu'on appelle, une faute de mieux, une énergie noire, dont on ne sait pratiquement rien, si ce n'est qu'elle provoque une accélération de l'expansion. Donc l'univers d'autrefois avait une accélération qui avait tendance à se ralentir, et puis la densité décroissant, cette énergie noire a pris le dessus sur la gravité et a provoqué une expansion accélérée. C'est une chose qui est connue seulement depuis une douzaine d'années et qui est encore, enfin, qui est une des plus grandes énigmes de l'astrophysique actuelle. Avec la matière noire, dont la nature n'est pas davantage connue. Alors, dans le cadre de cet univers ouvert, bien sûr, la densité moyenne de l'univers décroît avec le temps. Notre galaxie, elle, ne va pas subir grand changement pendant encore des dizaines de milliards d'années, puisque elle contient pas mal de réservoirs de gaz, à partir desquels des étoiles se forment. On voit des étoiles se former sous nos yeux, dans la nébuleuse d'Orion, par exemple. Donc l'aspect général de notre galaxie ne va pas changer fondamentalement dans les prochaines dizaines de milliards d'années. Dans 1000 milliards d'années, à peu près, le combustible nucléaire va commencer à s'épuiser. Essentiellement l'hydrogène, qui est responsable des 90% du temps de vie des étoiles. Et là, la formation des étoiles elles-mêmes va commencer à peiner, puisque les réservoirs de gaz non encore convertis en étoiles vont s'épuiser. Et puis, un peu plus tard, donc 10 000 milliards d'années, mais c'est un ordre de grandeur assez approximatif, extinction des étoiles par défaut de combustible, et les galaxies seront donc constituées de cadavres stellaires de trois catégories essentiellement, des naines blanches devenues noires, c'est-à-dire des noyaux d'étoiles de petite masse. Notre Soleil devrait finir en naine blanche en principe, qui est le noyau de l'étoile très condensé de la taille de la Terre et qui se contente de rayonner son énergie dans l'espace en se refroidissant graduellement sur des échelles quand même de centaines de millions d'années. C'est un astre qui a la taille de la Terre, une température initiale très grande, mais qui, au bout de ces nombreuses années, sera plus qu'une naine noire, c'est-à-dire qu'elle n'émettra plus que dans l'infrarouge, voire plus rien du tout. Des étoiles à neutrons, qui sont l'état de la matière le plus dense connu, un amas de neutrons, donc la densité d'un noyau d'atomes. Et puis des trous noirs, qui sont les cadavres d'étoiles de très grande masse, de plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil. Les étoiles à neutrons, elles, sont les cadavres d'étoiles de plus de 8 à 10 masses solaires environ. Donc ce sont des étoiles qui sont plus rares que les étoiles de type solaire, mais qui existent quand même en assez grand nombre dans notre galaxie. Alors, l'avenir comme ça est assez sombre, comme vous le voyez. Entre 10 puissance 18 et 10 puissance 24 ans, vous aurez une évolution dynamique des systèmes galactiques. Donc, je vous rappelle que notre galaxie est un grand système en forme de galette, en gros, qui contient 200 milliards d'étoiles à peu près. À cette époque-là, ce sera plus que 200 milliards de cadavres, naines noires, étoiles à neutrons et trous noirs. Et puis, pour des raisons dynamiques, ce sont des systèmes qu'on dit autogravitants, vous aurez finalement, au bout d'un très long temps, ce qu'on appelle une catastrophe gravothermique où les régions internes auront tendance à se contracter, tandis que les régions externes auront tendance à être dispersées à l'extérieur de la galaxie. Et comme vous savez aussi, se trouvent à l'intérieur, au centre des plus grandes galaxies, en tout cas, des trous noirs de très grande masse, de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards de masses solaires. Et ces cadavres vont alimenter sans doute le trou noir central de ces galaxies. Et puis après, vous voyez qu'on a des échelles de temps considérables, 10 puissance 27 ans, donc 10 avec 27 zéros. Les galaxies sont rassemblées en amas de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'individus. Et ces galaxies peuvent s'interpénétrer. Il semble d'ailleurs que la galaxie d'Andromède va tomber sur la nôtre d'ici quelques milliards d'années. C'est un événement qui est assez banal, à vrai dire, dans l'univers à grande échelle. Et c'est certainement ce qui se passera ici pour la plupart des galaxies membres d'amas. Et on peut s'attendre à ce que les trous noirs qui se trouvent au centre de chaque galaxie coalescent et s'interpénètrent pour donner des trous noirs qu'on appellerait hypergalactiques et qui auraient des masses de l'ordre de 10 000 milliards de masses solaires. Donc voilà un peu le scénario. Et après, à des échelles de temps encore plus grandes, on ne sait pas très bien ce qui se passera parce qu'on ne sait pas si le proton est stable ou non. Selon certaines théories de grande unification des particules, le proton devrait être instable à très très long terme, à plus de 10 puissance 32 ans, auquel cas il se désintégrerait en électrons, positrons, neutrinos et rayons gamma. Et s'il est stable, par contre, alors on peut s'attendre à très 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 long terme, 10 puissance 66 ans au minimum, vous voyez, à ce qu'on appelle l'évaporation quantique des trous noirs. C'est un effet qui a été prévu par Stephen Hawking, qui a, disons, été responsable d'une bonne partie de sa renommée, pour des raisons de liées à la mécanique quantique. Un trou noir, n'est-ce pas, censé être quelque chose qui avale tout mais ne restitue rien, y compris la lumière. Et pourtant, vous avez, en théorie quantique, ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui permet à des particules de traverser un puits de potentiel, enfin d'échapper à un puits de potentiel, et c'est cet effet-là qui permettrait l'évaporation de ces trous noirs, mais après un temps considérable. Vous voyez, pour les trous noirs stellaires, qui sont de plus petites masses, c'est-à-dire de quelques masses ou quelques dizaines de masses solaires peut-être, 10 puissance 66 ans. Les trous noirs galactiques de milliards de masses solaires après 10 puissance 104 ans, je crois. 94 ans, pardon. Et puis les trous noirs les plus massifs après 10 puissance 106 ans. Donc c'est des échelles complètement en dehors de l'échelle humaine. Et c'est pourquoi je n'insiste pas trop sur cet horizon-là qui est si lointain qu'il échappe vraiment à notre intuition. Revenons donc à une échelle beaucoup, beaucoup plus courte qui est le Soleil. Le Soleil, c'est vraiment notre voisin, nous lui devons beaucoup de choses, bien sûr. Le système solaire, donc là, tout à coup, on zoome de ces immenses distances où les galaxies ne sont que des molécules dans un gaz. On zoome d'abord sur notre galaxie, à laquelle nous ne nous arrêtons pas, et puis on zoome encore sur notre système solaire qui est juste un individu parmi des milliards de systèmes planétaires qui existent dans notre galaxie, comme on le sait maintenant depuis une quinzaine d'années. Alors, que va-t-il se passer? Nous savons que les étoiles sont mortelles. Ça, c'est un des résultats les plus sûrs de l'astrophysique. L'évolution des étoiles est relativement bien comprise. Et le cycle de vie du Soleil est représenté graphiquement ici en haut. Vous avez d'abord la formation du Soleil et des planètes, d'ailleurs, par un condensation d'un nuage de gaz et de poussière, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Et puis, le Soleil s'étant formé, il a assez peu varié depuis sa naissance. Nous sommes maintenant sur cet axe des temps que vous voyez là en milliards d'années, donc qui va jusqu'à 14 milliards d'années. Nous sommes là à 4 milliards et demi. Et en observant bien ce dessin, vous voyez que le rayon du Soleil a tendance à augmenter légèrement au cours de sa vie. Donc c'est lié au fait que l'hydrogène s'épuise petit à petit au centre du Soleil. Le cœur du Soleil a tendance à se contracter, mais par contre l'enveloppe, elle, se dilate légèrement. Et cette dilatation va aller en s'accélérant avec le temps, si bien que le Soleil va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, dont le rayon va avoir plusieurs dizaines de fois le rayon actuel du Soleil, voire même une centaine de fois pour le stade ultime. Et puis arrive un instant où l'enveloppe du Soleil va être éjectée dans l'espace à une vitesse relativement douce de 20 km par seconde, ce qui est plutôt lent à l'échelle astrophysique. Et il va y avoir pendant quelques millénaires ou quelques dizaines de milliers d'années ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, qui n'a rien à voir avec les planètes, mais qui a simplement été nommée comme ça parce que au télescope, ça a un aspect relativement compact, comme une planète. Vous avez ce fameux anneau de la Lyre ici, Messier 57, qui donne une idée du futur du Soleil. C'est au fond la mort en direct d'une étoile de masse modeste. Vous voyez, au centre, on distingue à peine le noyau qui reste de cette étoile, qui est une naine blanche en devenir, en fait, avec une température de surface de l'ordre de 100 000 degrés. Et puis, vous avez ce gaz en expansion, ici, qui est excité par l'ultraviolet qui vient de l'étoile centrale et qui est visible pendant quelques millénaires, en tout cas. Vous avez ici à gauche un petit schéma du système solaire qui est assez simplifié, mais vous reconnaissez ici donc le Soleil, bien sûr. Vous avez Mercure qui est là, Vénus, la Terre, et puis de l'autre côté, vous voyez Jupiter, Saturne avec ses anneaux, Uranus et Neptune, et leurs orbites qui sont dessinées là. Et pour rendre un peu plus concret cette évolution du Soleil, je vous montre l'animation qui est associée. Merci de cliquer sur le... Voilà, vous voyez le Soleil grossir et avaler la planète Mercure ici. Ensuite, il se rétracte après un événement explosif dans le cœur. Et puis, son diamètre augmente à nouveau. Et vous voyez qu'il absorbe Vénus. La Terre reste encore juste épargnée, mais tout juste. On pourrait peut-être le repasser encore une fois, juste pour... Voilà, donc première augmentation du rayon. Mercure est avalée. Vénus est épargnée. Par contre, et tout ça, ça se passe en moins d'un milliard d'années. Hein. Donc c'est relativement rapide. Voilà, Vénus est englobée aussi, et la Terre échappe tout juste, mais ça dépend un peu des détails des modèles. Il se pourrait fort bien que la Terre soit également englobée dans l'enveloppe du Soleil dans l'avenir. Alors ça, c'est la perspective à 5 milliards d'années environ. Donc ça reste relativement lointain. Il y a maintenant, évidemment, la question de savoir combien de temps la vie va pouvoir subsister sur la Terre. Lorsque la Terre sera sur le point d'être avalée par le Soleil, comme on l'a vu tout à l'heure, sa température sera de l'ordre de 1400 degrés ou quelque chose comme ça. Donc il est évident que toute vie sera grillée sur la Terre. Et puis après, quand le Soleil sera une naine blanche, au contraire, il fera une température glaciale sur la Terre. Donc la vie peut à coup sûr ne peut à coup sûr pas subsister dans de telles conditions, mais il peut fort bien qu'elle soit menacée bien avant. Et il faut voir que l'existence de notre atmosphère a évidemment un rôle crucial dans l'existence de la vie sur Terre, non seulement parce qu'elle nous permet de respirer, mais aussi parce que elle régularise la température ambiante. Et s'il n'y avait pas en particulier de gaz à effet de serre, je pense qu'on entendra parler dans d'autres exposés d'ailleurs de ces gaz, comme le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur d'eau, eh bien, il ferait glacial sur la Terre. Vous voyez, sans ces gaz, il ferait à peu près moins 19 degrés centigrades, alors que la température moyenne sur la Terre actuellement est à peu près de l'ordre de 14 degrés centigrades. Pourquoi ? Parce que le rayonnement qui vient du Soleil traverse pratiquement sans encombre l'atmosphère. Le maximum d'intensité lumineuse est autour de dans le jaune du spectre de radiation solaire. Ce rayonnement chauffe la Terre. Alors, une partie de ce rayonnement est directement réfléchie dans l'espace, également sans trop d'encombre. Par contre, une partie aussi repart sous forme de rayonnement infrarouge, puisque le sol est chauffé. Or, ce rayonnement infrarouge rencontre l'obstacle justement de ces gaz à effet de serre qui sont opaques au rayonnement infrarouge et qui forment comme une sorte de couverture, ce qui fait que ce rayonnement est transformé en énergie thermique dans l'atmosphère. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, cet effet de serre fonctionne bien sur la Terre avec modération. Il fonctionne avec une telle ampleur sur la planète Vénus, par exemple, dont l'atmosphère est essentiellement constituée de dioxyde de carbone, que là, le plomb pourrait y fondre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vie sur Vénus en particulier. Donc, qu'arrivera-t-il à l'atmosphère à long terme? Alors, il faut voir que, bien entendu, on parle beaucoup du réchauffement climatique actuellement. Alors, du point de vue de l'astrophysicien, l'existence de l'humanité est quelque anomalie qui introduit plus de bruit dans ses modèles qu'autre chose, parce que le comportement de l'humanité est évidemment imprévisible. Mais si vous faites abstraction de la production de dioxyde de carbone l'utilisation et le fait de brûler des ressources, du pétrole, etc. vous avez un cycle tout à fait intéressant, qui fonctionne peut-être d'ailleurs sur des planètes extrasolaires aussi, et qui maintient à très long terme, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'années, une température relativement clémente sur la Terre. C'est ce qu'on appelle le cycle du CO2. Alors il y a plusieurs cycles du CO2, il y a le cycle court qui est lié à la vie, à la végétation, mais il y a aussi un cycle long, alors qui est très très simplifié ici. Je vous donne juste l'aspect très schématique. Vous avez du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 peut, au travers des pluies, être transformé par exemple en acide carbonique, et par effet d'érosion, cet acide carbonique va aussi se combiner avec du calcium via aussi des organismes marins qui participent à ce processus. Et finalement, vous avez des couches sédimentaires de calcaire qui se forment au fond de la mer. Ces couches sédimentaires sont susceptibles de redescendre dans le manteau, dans les zones de subduction, grâce à la tectonique des plaques. Et puis, dans les couches de température suffisamment élevées, eh bien, du dioxyde d'azote se reforme et repart dans l'atmosphère via les volcans. Donc ça, c'est le schéma extrêmement, disons, simplifié, mais c'est un cycle qui fonctionne à des échelles de centaines de millions d'années et qui fait intervenir la tectonique des plaques. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous avez une sorte de rétroaction négative, en ce sens que si la température ambiante dans l'atmosphère est assez élevée, eh bien, le lessivage et la conversion du dioxyde de carbone en calcaire, par exemple, se passe plus rapidement. Ce sont des réactions chimiques qui sont d'autant plus rapides que la température est élevée. Donc ça va vider un peu l'atmosphère de son contenu en dioxyde de carbone. Et par conséquent, ça va faire baisser la température. Mais si la température baisse, alors le dioxyde de carbone a tout loisir de se renouveler par les volcans. Et puis, sa teneur dans l'atmosphère va augmenter. Et puis, la température va à nouveau augmenter. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe si la température est basse. Donc vous avez une sorte de rétroaction qui régularise à très long terme la température de l'atmosphère, cela sans parler bien entendu du dioxyde d'azote d'origine anthropique, c'est-à-dire dû à la combustion des ressources de pétrole accumulées dans le sol. Alors, ce mécanisme, combien de temps est-ce qu'il est susceptible de durer, toujours abstraction faite du CO2 anthropique? Eh bien, en principe, à peu près 500 millions d'années. Donc vous voyez que des 5 milliards d'années dont on parlait avant, on passe déjà à quelque chose de 10 fois plus court en temps. Ça commence à devenir angoissant. Et au bout de cette échéance, de toute façon, il n'y aura plus assez de CO2 dans l'atmosphère. Donc la teneur en CO2 devrait baisser parce que il s'agit de compenser l'augmentation du rayon du soleil et donc l'augmentation de sa luminosité aussi, qui a tendance à augmenter la température sur Terre, évidemment. Arrivera un point où il n'y aura plus assez de CO2 dans l'atmosphère pour autoriser la photosynthèse et donc les plantes vertes et donc en général la vie sur Terre. De toute façon, après cette échéance-là, dans un milliard d'années, donc simplement 500 millions d'années après, les océans vont commencer à bouillir. J'aimerais aborder maintenant la question de cette épée de Damoclès qui est sur nos têtes et qui est la question des impacts météoritiques. Ce cliché est très connu. On l'a appelé, enfin c'est Carl Sagan qui était un grand astrophysicien spécialiste des planètes qui a participé au programme d'exploration du système solaire par la NASA. C'est lui qui a eu l'idée de demander à la sonde Voyager 1 de tourner ses caméras vers la Terre alors qu'elle était aux confins du système solaire. Et il a appelé Pale Blue Dot, l'aspect de la Terre. Alors j'ai de la peine à le voir, peut-être vous aussi, mais c'est par ici, si vous regardez très attentivement le cliché, vous voyez un petit point bleu pâle par là. Ces traînées ici sont des artefacts dans l'image, peut-être des réflexions du soleil dans l'optique, je ne sais pas exactement. Et le cliché a été pris à peu près de ce point-là. Vous voyez en rouge la trajectoire de Voyager 1. C'était pris en 1990. Et vous voyez représenté sur ce cliché uniquement les orbites des planètes extérieures, des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il y avait encore Pluton qui était considéré à l'époque comme une planète. On n'a même pas représenté les orbites de la Terre et de Mars qui sont tellement petites que ça chargerait inutilement le cliché. Donc voyez que nous sommes en train de parler ici sur ce petit point-là, et cela évidemment est très évocateur quant à la fragilité de notre Terre. Et toutes sortes de débris circulent dans notre système solaire, plus ou moins menaçants. Il y en avait beaucoup plus à l'origine du système solaire, et il arrive que ces débris tombent sur une planète, sur la Terre bien sûr, mais aussi sur Jupiter. Actuellement, c'est surtout sur la planète Jupiter qui est la plus grosse du système solaire et donc le plus gros aspirateur en quelque sorte, grâce à son champ de gravitation extrêmement fort, qui attire le plus de débris. Et il y a une quinzaine d'années, la comète Shoemaker-Levy s'est fragmentée en une vingtaine de morceaux. Donc une comète, c'est une sorte de boule de neige de quelques kilomètres de diamètre, ou quelques dizaines éventuellement. Et là, cette comète s'est fragmentée sous l'effet de la gravitation de Jupiter en une vingtaine de morceaux qui avaient chacun peut-être de l'ordre de 1 kilomètre de diamètre. Et ce chapelet est tombé sur la planète Jupiter et y a laissé des traces que vous allez voir ici. Vous allez voir un impact laissé par un de ces fragments sur la planète Jupiter. Je vous prie de faire passer le film. Alors, vous voyez cet impact qui se développe ici. C'est une prise... un film pris en infrarouge au télescope de 10 mètres à Hawaï. Alors, le cliché n'est pas de très bonne qualité et vous voyez pas grand-chose si ce n'est ici, vous devinez le limbe de la planète Jupiter. Donc, il vaut bien voir que Jupiter prend à peu près cette dimension-là. Vous voyez des points chauds déjà en infrarouge dus à des impacts précédents qui sont encore chauds. Et puis, ce qu'on voit en direct, c'est l'impact ici, presque sur le limbe de Jupiter. Vous pouvez repasser le film encore une fois. Alors, l'objet est relativement petit, mais la vitesse est extrêmement grande. Donc, l'énergie cinétique correspondante est extrêmement vaste. Et vous avez là une explosion qui correspond à beaucoup, beaucoup plus qu'une bombe atomique de 100 mégatonnes. Donc, on a vu en direct ce genre d'événement dans notre système solaire. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs, qui ont été vus concernant des impacteurs plus petits. Et l'histoire du système solaire, qui est enregistrée sur la Lune en particulier, qui n'a pas d'atmosphère ni de tectonique des plaques, témoigne de ces débuts très mouvementés du système solaire, où tous ces cratères que vous voyez là sont le résultat d'impacts de météorites plus ou moins grands sur notre satellite. Alors, on ne voit plus guère de cratères sur notre Terre parce que l'érosion et la tectonique des plaques ont effacé une bonne partie de l'histoire de ces impacts. Néanmoins, vous voyez, par exemple, ce cratère Manicouagan au Canada, que l'on date à environ 200 millions d'années, et qui a quand même un diamètre de l'ordre de 70 kilomètres. Il semble d'ailleurs que le diamètre original était plus grand que ça, presque de l'ordre de 100 kilomètres. Il ne reste ici plus qu'un lac qui sert d'ailleurs une usine hydroélectrique. Vous voyez aussi sur le cliché la dérive de la navette spatiale d'où a été pris le cliché. Un cratère plus récent et plus caractéristique peut-être, moins affecté par l'érosion, c'est le fameux Meteor Crater en Arizona aux États-Unis, qui a 1 kilomètre de diamètre environ. On y a retrouvé des fragments de météorites ferreuses là-dedans. Et on estime l'événement à 50 000 ans dans le passé. Donc ça reste encore relativement lointain. Mais un événement beaucoup plus récent pourrait nous inquiéter davantage, c'est l'impact de la Tunguska en 1908, donc il y a à peine plus d'un siècle. Vous voyez ici, fort heureusement, cet impact a eu lieu dans une région pratiquement inhabitée de la Sibérie, mais a eu un effet assez dévastateur, comme vous le voyez sur cette photo. Malheureusement, à cause des turbulences de la Révolution russe, de la Première Guerre mondiale, etc., une expédition scientifique a mis beaucoup de temps à se mettre en route, presque 20 ans plus tard seulement. Et voilà les résultats des arbres couchés sur une surface considérable. On estime qu'il y a au moins 5 millions d'arbres qui ont été couchés de cette manière-là par une explosion qui n'a par contre laissé aucun cratère, ce qui a donné lieu à beaucoup de spéculations à l'époque. Donc pas de cratère, mais une secousse sismique, même plusieurs secousses ressenties à plus de 1000 km, une boule de feu vue jusqu'à 1000 km aussi, une onde de pression ressentie jusqu'à Londres, une onde de chaleur ressentie à 200 km, des feux de forêt allumés simultanément dans une zone de 20 km de diamètre, et la zone dévastée a la forme d'un papillon, alors d'une centaine de mètres. Alors c'est quelque chose qui est resté assez mystérieux encore jusqu'à il y a peu de temps. Et puis on estime la puissance de destruction équivalente à celle d'une bombe de 20 mégatonnes environ, soit 1000 fois l'explosion d'Hiroshima. Et 2000 km² ont été dévastés. Il semble qu'il y ait eu une victime humaine, probablement plusieurs reines, mais sans plus. Alors, c'est assez frappant de voir que l'explosion a eu lieu là, fort heureusement dans une zone inhabitée, mais à peu près à la même latitude que Saint-Pétersbourg. Et l'événement eut lieu 4h30 plus tard, eh bien, Saint-Pétersbourg aurait été rasé, n'est-ce pas? Bon, le raisonnement est peut-être un tout petit peu spécieux, dans le sens que la Terre ne fait pas que tourner sur son axe, elle voyage aussi dans l'espace, et à ce moment-là, l'impacteur aurait peut-être raté la Terre, en fait. Alors, on s'est longtemps interrogé sur la nature du projectile. Ici, quelques lumières viennent de simulations numériques assez élaborées qui ont été faites récemment. On pense qu'il s'agit d'une météorite ferreuse. Ici, vous avez une simulation qui concerne une météorite de 10 mètres de diamètre seulement. C'était probablement quelque chose d'un peu plus gros. Mais cette simulation vous donne une petite idée de ce qui se passe. Vous pouvez passer le film. Voilà. Vous voyez cette espèce de colonne de feu qui descend. Et puis l'onde de choc ici qui se propage. Alors les couleurs ici représentent les températures. Le blanc correspond à peu près à 5800 degrés. Donc vous voyez que vous avez quelque chose d'assez considérable. Et puis vous avez ici deux zones qui sont particulièrement touchées par la très haute température, ce qui explique la forme en papillon du seul reste direct que l'on voit de l'explosion, à part les arbres couchés. Voilà une autre simulation du même type qui montre la trajectoire inclinée. Alors, ce qui est intéressant en fait dans ces simulations, c'est qu'on voit que, à cause de la quantité de mouvement considérable, le projectile arrive à une vitesse typique de l'ordre de 20 km par seconde. La puissance destructrice de l'explosion est fortement amplifiée. Il semble que l'explosion corresponde à quelque chose comme 5 mégatonnes, 4 ou 5 mégatonnes, pas plus, mais la puissance de destruction, en fait, correspond à quelque chose de beaucoup plus grand, à cause du fait que même les débris de l'explosion qui a lieu en altitude foncent vers la Terre à toute vitesse, et cela amplifie la onde de choc et les effets destructeurs. Alors, bien sûr, la question est de savoir quand est-ce qu'un événement pareil va se reproduire. Et, du point de vue simplement statistique et probabiliste, la fréquence d'un tel événement dépend fortement de la taille du projectile. Plus le projectile est gros, plus l'événement est rare, bien sûr. Et, il est intéressant quand même de remarquer que des projectiles de l'ordre de quelques mètres de diamètre, vous voyez, 3 mètres ici, tombent dans notre atmosphère tous les quelques mois. Et en général, ils explosent dans la haute atmosphère et on n'en voit aucun effet au sol. Certains arrivent jusqu'au sol, mais beaucoup ont été détectés par des satellites militaires destinés au premier abord à détecter des essais nucléaires des puissances adverses. Et puis, ils ont vu surtout des explosions de quelques kilotonnes liées à ces projectiles, de ces petits rochers de quelques mètres de diamètre. Après, un événement du genre de la Tunguska, ici, alors c'est quelques dizaines de mètres probablement, vous voyez que la fréquence attendue est quelque chose comme une fois tous les quelques siècles. Autrement dit, le prochain événement de ce type pourrait arriver demain, comme il pourrait arriver dans 3000 ans, par exemple. Après, ça devient de plus en plus rare. jusque, par exemple, si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'extrêmement grave, comme un impact d'un objet de 10 km de diamètre, du même genre que celui qui a provoqué l'extinction, semble-t-il, des dinosaures, il y a 65 millions d'années, alors là, la fréquence est seulement tous les quelques 100 millions d'années. Donc le risque décroît fort heureusement avec la gravité de l'événement, mais malgré tout, beaucoup de ces objets sont détectés avant qu'ils soient susceptibles de tomber sur la Terre, mais l'efficacité de la détection forcément n'est pas 100%. Si on se rapproche encore de nous, il y a évidemment les menaces d'épuisement des ressources. Deux auteurs prestigieux ont récemment publié un livre qui s'appelle Surviving a Thousand Centuries, Can We Do It? Il s'agit de Roger Maurice Bonnet, directeur de la science à l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, ancien directeur de la science, et puis Ludwig Wolger, qui était pendant pas mal d'années le président de l'Observatoire européen austral. Donc deux auteurs prestigieux qui ont consacré une partie de leur retraite à explorer ce sujet. Est-ce que l'humanité peut survivre encore 1000 siècles? La conclusion, c'est possible, mais à certaines conditions quand même assez précises. Alors bien sûr, vous avez la question de la surpopulation, vous voyez ce diagramme que les Malthusiens aiment bien, où vous voyez l'augmentation exponentielle de la population. Il est clair que il y a un plafond qui sera pas possible de dépasser, parce que si vous doublez la population mondiale chaque siècle, alors qu'elle a quadruplé plutôt au XXe siècle, eh bien dans 2000 ans, le facteur de multiplication aura été d'un million. Donc vous voyez que c'est évidemment impossible. Les menaces d'épuisement des ressources, alors je vous montre ça sous toute réserve, parce que c'est toujours extrêmement risqué de faire des prédictions, mais néanmoins, ça n'exclut pas le fait que tôt ou tard, on va arriver un peu au bout des ressources que la Terre nous donne, ne fût-ce que pour le pétrole. Alors là, on prévoit la fin du pétrole pour 2050, c'est sans doute... il faut pas voir ça comme une limite, comme un mur, parce que évidemment, ça dépend de l'effort qu'on est prêt à consentir pour extraire du pétrole dans des conditions de plus en plus difficiles et de plus en plus chères. Certains, comme l'Energy Watch Group, prétendent qu'on a déjà atteint le maximum de production de pétrole en 2006. Alors, ces milieux sont plutôt proches des milieux écologiques. Certains contesteront ce fait. Néanmoins, il y a là quelque chose qui donne à réfléchir et qui nécessitera un gros effort de la part de l'humanité pour surmonter ces limitations. J'aimerais terminer par une considération liée un peu à l'histoire des sciences. Vous savez que les astronomes aiment bien regarder les choses avec beaucoup de recul et à grande échelle. Et j'ai trouvé un parallèle intéressant entre ce livre de Ludwig Wolger et Roger Maurice Bonnet, et puis ce que disait un homme très haut en couleur il y a un siècle, qui s'appelle Percival Lowell, et qui a beaucoup travaillé sur la planète Mars. Et c'était un des grands défenseurs des canaux de Mars, qu'il croyait voir sur le globe martien. On a beaucoup parlé de ces canaux martiens. Vous voyez ici un globe martien dont Lowell est un des auteurs. Vous voyez ces les configurations classiques qu'on voit sur Mars, mais en plus cette espèce de toile d'araignée, ce réseau de ce qu'on appelait des canaux, et qui pour Percival Lowell était l'œuvre de martiens industrieux qui étaient confrontés à l'épuisement des ressources sur leur planète, des ressources en eau en particulier, et comme les calottes polaires de Mars contiennent de l'eau, elles contiennent surtout de la glace carbonique en fait, mais il y a aussi un peu d'eau sous forme de glace, les martiens avaient construit ces canaux pour irriguer les régions tempérées équatoriales et faire pousser de la végétation. Bien sûr, tout cela, vu qu'il s'agit d'un ouvrage à l'échelle de la planète, impliquait une société mondialisée et Percival Lowell, qui était un homme très riche et très prospère, était aussi un disciple de Spencer, un socio-darwiniste convaincu. Et pour lui, ces travaux nécessitaient une communauté d'intérêts sous peine de mort. Sans aucun doute, un gouvernement unique contrôle les activités économiques de toute la planète, la mondialisation martienne, n'est-ce pas ? Et nous pouvons être tout à fait sûrs que dans l'économie mondialisée martienne, seuls les plus aptes ont survécu. Alors ça, c'était le point de vue il y a un siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Lowell, la planète Mars devait servir de prophète pour notre planète, en fait. Parce que, étant plus petite, Mars avait, selon lui, évolué plus rapidement que la Terre. Il s'était refroidi plus vite, n'est-ce pas ? Ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs, Lowell est l'inventeur du mot planétologie. On peut le considérer comme le fondateur de la planétologie, à certains égards. Et pour lui, Mars, le Mars actuel qu'il voyait à l'oculaire de son télescope, devait être, au fond, l'équivalent du futur de la Terre et servir d'exemple pour notre société actuelle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est amusant de voir que on se préoccupe plus de l'épuisement des ressources sur Mars, parce qu'on croit plus aux Martiens, bien sûr, mais on se préoccupe de l'épuisement des ressources sur la Terre. Et pour Bonnet et Volger, qui ont présenté leur livre dans une conférence à laquelle j'ai assisté, ils parlent dans la présentation de leur livre des changements profonds que l'homme devra accepter d'engager pour assurer sa survie pour encore 1000 siècles. Alors, limite de la croissance, de la population mondiale, etc. Nouvelle gouvernance mondiale sont quelques-unes des conditions nécessaires pour atteindre ce but. Alors, de quel type sera cette gouvernance ? Eh bien, c'est intéressant de voir juste une petite remarque Volger a fait durant cette conférence. Il faut remercier la Chine d'avoir imposé la limitation des naissances. Et je trouve que cette remarque intéressante, elle me laisse personnellement un peu songeur quant à la nature de cette gouvernance qu'il prône. Et voilà, je pensais intéressant de faire ce parallèle entre les propos de Percival Lowell il y a un siècle et puis les propos actuels que l'on tient maintenant sur la Terre. En conclusion, j'aimerais simplement rappeler quelques points. D'abord, du seul point de vue de l'astrophysique, il est clair que l'humanité est vouée à une destruction inéluctable, même si elle trouve moyen d'émigrer sur d'autres planètes, sur des planètes extrasolaires, ce qui est extrêmement peu probable. Et je dirais qu'à court terme, en tout cas, l'homme a plus à craindre de lui-même que de la nature. Même si à long terme, évidemment, le sort de l'humanité est scellé de ce point de vue-là. Et puis, par conséquent, seul un point de vue métaphysique et de plus habité par la foi peut intégrer la notion d'immortalité de l'homme, aussi bien du point de vue individuel que collectif. Hein, il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, comme le dit l'Ecclésiaste. Et puis, si on croit à l'immortalité de l'homme et donc de l'humanité, nécessairement, vous devez croire en un monde littéralement surnaturel. Parce que le monde naturel dont j'ai parlé jusqu'ici est vraiment voué à disparaître. Et vous avez ce très beau texte de l'Apocalypse, ce propos de l'apôtre Jean, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alors, cet avènement de la nouvelle Jérusalem, et sa description d'ailleurs, montre qu'il s'agit vraiment d'un monde qui transcende complètement le monde naturel, qui est l'objet des investigations scientifiques. Et là, nous sortons complètement du monde scientifique. Je crois qu'il est important de pas garder d'illusions à ce point de vue-là. Ça rejoint d'ailleurs l'idée que la date du retour du Christ, tous ces événements eschatologiques ne sont pas à notre portée ni à, c'est pas de notre possibilité de les prévoir dans le détail. Je vous remercie de votre attention.